Le journal, bonjour Isabelle Souquet.
Bonjour.
Des Français disparus à Bagdad, bénévoles d'une association de secours aux chrétiens d'Orient, on est sans nouvelles d'eux depuis 5 jours. Les autres titres, Isabelle.
La réforme des retraites, l'étude d'impact réalisée par le gouvernement ne convainc pas. Nouveau rendez-vous de mobilisation à prévoir dès jeudi. L'étau se resserre autour de Michel Fournier dans l'affaire de la disparition de la petite Estelle. Son ex-épouse l'accuse à nouveau. Un an après, le Brésil peine à se relever de l'accident de Brumadinho, une coulée de boue toxique, pire catastrophe qu'a connu le pays.
L'invité à partir de 8h20, ce sera le politologue Dominique Régnier, directeur général du think tank Fondapol, la fondation pour l'innovation politique.
France Inter.
Ils sont donc quatre Français portés disparus en Irak.
Oui, des membres de l'association française SOS Chrétiens d'Orient. On est aussi sans nouvelles de leur accompagnateur irakien. On soupçonne un enlèvement. Seule certitude, ils ont disparu à Bagdad lundi après-midi. L'alerte n'a été véritablement donnée que mardi et les circonstances de ces disparitions restent plutôt floues. Nathanaël Charbonnier.
Les quatre humanitaires ont disparu lundi alors qu'ils étaient à bord d'une voiture. Les faits se sont produits pas très loin de l'ambassade de France à Bagdad, pas très loin de l'hôtel où ils séjournaient, un hôtel qui reçoit habituellement des délégations étrangères. Il s'agit de 3 Français et d'un ressortissant irakien. Ils étaient en bonne santé et sont habitués à travailler dans des conditions difficiles. Ils étaient en règle administrativement et devaient aller faire des papiers pour permettre à l'association de travailler en Irak. Ils devaient également visiter l'école reconstruite par l'association SOS Chrétiens d'Orient à Bagdad. C'est à partir de mardi que l'inquiétude est montée. Jusque-là, les responsables des chrétiens d'Orient attendaient des nouvelles. Ils savent que les communications avec l'Irak ne sont pas toujours faciles. Mais comme le silence a persisté toute la journée de mardi, les responsables ont décidé de donner l'alerte. Et depuis, plus rien. Pas de nouvelles, pas de demande de rançon non plus. L'affaire est suivie directement par les autorités françaises et irakiennes.
À Wuhan, en Chine, l'évacuation des Français a commencé. Devant la menace d'épidémie du coronavirus, le pays vient d'élargir son cordon sanitaire. Ce sont maintenant 56 millions de personnes qui sont confinées dans toute la province. Et alors qu'un premier cas vient d'être signalé en Australie, 3 cas sont confirmés en France, à Paris et à Bordeaux. Les 3 patients hospitalisés sont placés à l'isolement. En Chine, la situation s'est encore aggravée. Un médecin de l'hôpital de la province de Wuhan est décédé. 41 personnes au total ont succombé. L'armée a envoyé ses médecins et paramédicaux sur place. En France, l'étude d'impact de la réforme des retraites a été donc publiée hier après-midi par le gouvernement. 1000 pages qui détaillent en quoi le nouveau système sera plus redistributif que le système actuel. L'écart entre les 10% des retraités les plus aisés et les plus modestes tendrait à se réduire pour la génération née en 1980. Une étude à prendre malgré tout avec des pincettes. Elle n'intègre pas réellement le fait que l'âge d'équilibre dans le nouveau système pourrait être glissant. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, et lui, loin d'être convaincu.
L'étude d'impact, la seule chose qu'elle nous dit, c'est qu'il faudra travailler plus longtemps et même au-delà des 64 ans de l'âge d'équilibre au départ, 65, 66, 67 ans. Et on a bien compris, nous l'avions dit depuis très longtemps, que cette réforme se traduirait par une réforme paramétrique permanente, un âge pivot permanent. On nous a abreuvé de formules très générales, très généreuses. Jamais on n'a été en capacité de nous dire concrètement ce que cela donnerait. Et c'est tout le débat aujourd'hui sur cette étude d'impact. Ce que cela donnera, on travaillera plus longtemps et bien au-delà des 64 ans de l'âge d'équilibre de départ. À l'évidence, l'objectif, encore une fois, c'est de donner à l'État, au gouvernement, demain, un outil de gestion de l'enveloppe globale des retraites. C'est exactement ce qui est en train de se passer.
Yves Verrier de Force Ouvrière avec Claire Chaudière. Les cortèges contre le futur système ont encore réuni des centaines de milliers de manifestants un peu partout en France et un nouveau rendez-vous a été fixé cette semaine.
17 ans après les faits, Estelle Mouzin va-t-elle enfin connaître l'affaire Estelle Mouzin va-t-elle enfin connaître son dénouement?
Eh bien, Michel Fourniret est aujourd'hui le suspect numéro 1 dans cette affaire. Il a été mis en examen fin novembre pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Mais son ex-femme l'accuse à nouveau et plus précisément encore, Monique Olivier, entendue pendant près de 6 heures par la juge d'instruction en charge de l'enquête. Elle contredit l'alibi du tueur en série et raconte que Fourniret a fait une série de repérages de jeunes filles en Seine-et-Marne très peu de temps avant les faits. C'était le 9 janvier 2013 à Guermantes et la petite Estelle avait 9 ans. L'ex-compagne de Michel Fourniret a été donc entendue par le juge d'instruction.
On a plus avancé en 6 heures d'audition qu'en 10 ans. Ce sont les mots lâchés par l'avocat de Monique Olivier. Au cours de l'audition devant la juge, Monique Olivier a confié que pour elle, Michel Fourniret avait tué Estelle Mouzin, et ce pour 3 raisons. La fillette avait, a-t-elle dit, le profil type des jeunes filles qu'il recherchait. Il a effectué des repérages dans le secteur sur une ou deux jeunes filles, dans les jours, dans les semaines qui ont précédé la disparition d'Estelle. Et puis elle a réaffirmé que c'était bien elle qui avait passé le coup de téléphone depuis son domicile de Sarcustine en Belgique à la demande de son mari pour laisser penser qu'il était bien chez lui le 9 janvier 2003. Et puis, autre confidence de Monique Olivier, Michel Fourniret est impliqué dans d'autres disparitions. Monique Olivier explique qu'à plusieurs reprises, il partait en chasse, qu'il lui a confié à son retour, celle-ci au moins, on ne la retrouvera jamais. Il se pourrait donc que Michel Fourniret soit impliqué dans d'autres disparitions de jeunes filles au cours de ces 10 années. Entre 1990 et 2000.
Les derniers développements de l'affaire Estelle Mouzin avec Laure de Beaulieu. À l'étranger, Donald Trump a défilé contre l'avortement. C'est le premier président américain à prendre part à cette marche annuelle des pro-life. Pendant ce temps, au Sénat, les procureurs ont bouclé le dossier d'accusation pour la destitution du président. Place aujourd'hui à la défense, elle va demander l'acquittement dans ce procès. Il y a tout juste un an, le 25 janvier 2019, un barrage minier cédé à Brumadinho au Brésil, à 500 km au nord de Rio de Janeiro. Une coulée de boue toxique qui engloutissait 270 personnes et provoquait la pire catastrophe écologique. Les boues se sont en effet répandues sur des kilomètres, les polluant durablement. Aujourd'hui, ce désastre est considéré comme un crime très loin d'être réparé. Sur place, Anne Vigna.
À Brumadinho, la colère n'est pas retombée un an après ce qu'on nomme désormais comme un crime et non plus comme une catastrophe. Carolina de Moura est une habitante endeuillée et qui participe désormais au réseau des victimes de Valais. Par téléphone, elle raconte l'ambiance qui règne à Brumadinho.
Un an après la rupture criminelle du barrage de Valais, nous vivons dans le chaos, la désinformation, et nous ne savons toujours pas à quel niveau de pollution nous sommes exposés.
Cette semaine pourtant, Carolina a commémoré la mise en examen pour homicide involontaire de hauts responsables de Valais, dont l'ancien PDG. Une première au Brésil et la confirmation pour les habitants qu'il s'agissait bien d'une action criminelle.
Cette mise en examen nous a donné une certaine satisfaction, car elle prouve que Valais connaissait très bien les risques et que l'entreprise n'a rien fait.
Aujourd'hui, Valais fait encore trop peu, selon Carole, une autre habitante engagée au sein de l'église pour épauler les familles dans les négociations avec Valais.
Valais a conclu des accords bien inférieurs, à un juste prix. L'entreprise se soucie surtout de son image et a dépensé beaucoup plus qu'en réparation avec les familles.
Mais pour Valais, la publicité a bien payé. Son action sur le marché a retrouvé sa valeur d'avant Brumadinho. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Inter.
C'était une grande première sportive, un match de la NBA en France.
Eh bien oui, hier à Paris-Bercy, les Milwaukee Bucks ont battu les Charlotte Hornets 116 à 103. Retour sur un soir de fête du basket américain pour les fans français avec Vincent Pellegrini.
Bercy était hier soir un petit coin d'Amérique, alors comme aux États-Unis, avant chaque match, on a joué l'hymne national. Les Charlotte Hornets de Nicolas Batum ont dominé la première mi-temps, mais les Bucks de Milwaukee, actuel leader de la NBA, ont fini par prendre le dessus, parfaitement guidés par leurs joueurs vedettes. Giannis Antetokounmpo, une nouvelle fois décisif avec ses 30 points marqués, lui qui a été élu la saison dernière meilleur joueur de la NBA. À l'image de sa saison, Nicolas Batum n'a pas brillé, seulement 5 points marqués. Un match décevant au niveau du résultat, mais une grande émotion pour le capitaine de l'équipe de France.
Quand tout un stade scande votre nom, un très bon moment, j'avais beaucoup de famille, beaucoup d'amis. Là, c'était particulier, voilà, c'est quelque chose qu'on ne vit pas tous les jours et c'est génial.
Le match n'a pas atteint des sommets, les maladresses ont été nombreuses, mais les fans présents à Bercy n'ont pas regretté leur soirée.
Extraordinaire, un grand plaisir. Que du beau monde, c'était extra.
C'était vraiment comme un show à l'américaine en fait, mais à la française, donc c'était super bien.
C'est incroyable, le niveau est énorme. Toutes leurs décisions, c'est des bons choix. Ils mettent tous leurs shoots, c'est encore mieux que ce qu'on voit à la télé.
Et cette soirée d'hier aura une suite. La NBA a annoncé qu'un nouveau match serait organisé à Paris dans un an.
En tennis, Gaël Monfils qualifié en 8e de finale de l'Open d'Australie. Dernier français en lice dans le tournoi. Il a battu le Letton Ernst Gulbis 7-6, 6-4, 6-3. Au prochain tour, il affrontera l'Américain Taylor Fritz ou l'Autrichien Dominic Thiem. Et puis la police du Québec garde encore espoir de retrouver les corps de 4 touristes français toujours recherchés. Ils étaient partis pour une expédition en motoneige et sont tombés dans les eaux d'un lac. Le corps d'une première victime a pu être repêché.
C'était le journal d'Isabelle Souquet. Le temps. Le soleil va souvent rester caché aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
Absolument, avec donc beaucoup de gris en perspective, sans grande évolution, des brouillards souvent givrants dans la moitié nord du pays, au vu des températures de 0 à moins 4 degrés actuellement du nord de la Seine aux frontières du quart nord-est, et des valeurs de 2 à 6 degrés au grand maximum cet après-midi. Sur le reste du pays, les nuages vont également l'emporter, avec simplement de meilleures chances de trouver vers le Limousin, le centre et le Midi-Pyrénées. À noter que les pluies actuelles en basse vallée du Rhône vont gagner le Languedoc et l'ouest de la région PACA, et celles qui survolent la pointe ouest vont progressivement s'étendre à toute la façade atlantique, avec 10 à 13 degrés prévus cet après-midi entre Brest, Nantes, La Rochelle et Biarritz, 8 à 10 en Auvergne-Rhône-Alpes et 14 en moyenne dans le golfe du Lion, sur la Côte d'Azur et la Corse.